On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Et il peut se passer des choses incroyables dans les transports en commun. C'est ce qu'on va voir avec vous ce soir. Bateau, avion, train, métro, bus, tramway. Alors, transport en commun ou transport tout court, hein, ça peut aussi se passer dans la voiture. Vous y avez vécu des histoires pas banales, vraiment drôles ou avec un scénario catastrophique. Venez nous en parler ce soir sur France Bleu. On vous attend au 0810 055 056. Ça va du coup de foudre amoureux au wagon-bar, à l'accouchement pas forcément prévu. Dans un avion, un voisin complètement dingue à côté de vous, ou des demandes saugrenues. On peut parler aussi des rencontres impromptues grâce à Blablacar, hein, ces échanges de voitures et ce covoiturage. Ça permet de rencontrer des gens qu'on n'a pas vraiment choisis. Ça peut être une roue qui se décroche pendant un voyage, ça peut être un contrôle de police cocasse. Bref, vraiment, ce soir, tout est possible, tout est ouvert. Si vous avez croisé des stars également en prenant les transports en commun, venez nous raconter tout ça. On a 2 heures pour rigoler, pour en parler, pour se poser. C'est votre émission de confidence chaque soir sur France Bleu. C'est le petit moment qu'on se garde rien qu'à nous, entre nous. Je vous attends, c'est parti.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on parle des transports en commun et plus particulièrement de toutes les petites histoires qui vous sont arrivées dans les transports en commun. Si vous avez croisé une star dans un train, si vous avez assisté à une bagarre dans un avion, si vous avez fait une croisière qui ne s'amusait pas vraiment sur un bateau, vous êtes même peut-être trompé de train et êtes arrivé sur une destination improbable, vous avez eu le voisin le plus insupportable du monde. Venez nous rejoindre pour en parler au 0810 055 056. On parle aussi covoiturage, hein, c'est très tendance, avec des covoitureurs pas toujours très agréables. On parle de contrôle de police aussi. On parle de voiture qui ne va pas tout à fait dans le bon sens. C'est vraiment comme vous voulez. Venez en parler, venez rigoler aussi avec nous parce que c'est quand même le but de cette émission ce soir. Et on va accueillir Marie-Reine pour démarrer l'émission depuis le Var. Bonsoir Marie-Reine.
Bonsoir.
Alors vous avez croisé une star dans un avion.
Oui, c'est une copine que j'ai rencontrée dans l'avion qui me dit il y a Doc Gynéco dans l'avion. J'ai fait non, c'est pas possible.
Et c'était vraiment Doc Gynéco. Marie-Reine, vous êtes où? Marie-Reine. Ah, on dirait que ça a coupé. Doc Gynéco, bah oui, c'est lui.
Mon père est né là-bas. Moi, je suis né ici, dans la misère et les cris.
Alors, je sais pas si c'est le vrai Doc Gynéco ou la caricature de Doc Gynéco, le gars qui parle un peu comme ça. Ouais, c'est le vrai, vraiment. Mais moi, j'aimerais bien en discuter avec Marie-Reine. On va essayer de vous rappeler, Marie-Reine, et de savoir un petit peu s'il y a eu rapprochement, s'il y a eu discussion, philosophie avec Doc Gynéco. C'est quand même assez rigolo. On n'arrive pas à vous joindre, Marie-Reine. Si vous nous entendez, vous nous rappelez vite au 0810 055 056. Et puis, on va toute la soirée, comme ça, parler d'histoires rigolotes dans les transports en commun. Rigolotes, insolites, catastrophiques, pas communes, finalement. C'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Les histoires insolites dans les transports, c'est le sujet dont se dit tout ce soir et on va essayer de recapter Marie-Reine dans le Var. Ça va, vous êtes toujours là Marie-Reine?
Oui, j'ai des problèmes avec la connexion en fait.
Bah là, ne bougez donc, pas, ça passe bien. Alors pour ceux qui n'étaient pas là il y a 5 minutes, vous prenez l'avion et là votre voisine, votre copine vous dit il y a Doc Gynéco.
Voilà, exactement. Donc j'ai essayé de le prendre en photo dans la montée d'escalier derrière les pilotes. Et ensuite, au moment de descendre de l'appareil, je me suis retrouvée en bas avec ma copine en train de discuter avant de donner la carte d'identité. Et puis elle me dit « Regarde, il arrive là-bas derrière ». Alors du coup, je lui dis « Non, c'est pas vrai ». Je me retourne et puis il était là. Alors j'avais un ballon dans les mains. Et je lui dis...
Qu'est-ce que vous faites avec un ballon dans un avion, Marie-Reine, déjà?
Ben, j'en sais rien. Je ne sais plus si c'était lui qui avait le ballon ou si c'était nous. Et je crois que c'était Doc Gynéco qui avait un ballon. Et donc, il me dit... je lui fais, je peux vous prendre en photo? Alors il me fait, oui, allez, c'est bon. Alors du coup, je prends en photo plusieurs fois avec ma copine, moi, etc. Et puis, il me dit, je peux prendre une photo, moi.
Alors, vous faites bien Doc Gynéco, là.
Alors du coup, je lui dis, ben oui, mais surtout, vous appuyez qu'une fois, parce que sinon, ça va enclencher plusieurs photos. Et c'était pas les appareils numériques à l'époque.
Ah oui, d'accord.
Et donc... il prend l'appareil, il me dit « Tu peux tenir mon ballon ?» Alors j'ai tiens son ballon. Et puis il commence à appuyer et il va tellement doucement, ça fait clic, clic, clic. Je fais stop. J'arrête surtout. Et puis, donc à la sortie, donc j'ai fait ces photos-là, après on est passé, etc. Puis dehors, je le revois. Donc, il me fait signe de venir. Alors, wow. Je lui dis, ça va? Alors, il me fait, tu peux me donner ta culotte?
Non! Oh mon Dieu! En direct sur France Bleu, voilà, on a prononcé.
Alors, il fait, alors, il fait oui! Mais il fait, dis rien, fais pas de bruit. Alors, j'ai fait, mais comment je fais? Alors, il a cru que j'allais l'enlever, mais il me fait pas ici, il me fait à l'intérieur de l'aéroport. Alors, du coup, je suis partie dans un magasin, heureusement, je m'étais changée dans l'avion. Alors, je lui fais, mais c'est un ensemble qu'on vient de m'offrir, j'aurais bien aimé le garder. Alors, il me fait, tant pis. Tu m'as pris plein de fois en photo, qui me fait.
Et vous avez donné votre culotte à Doc Gynéco.
Je suis allée à l'intérieur, j'ai enlevé la culotte, j'ai remis l'autre. Et je vais pour lui donner, mais en soulevant la main, il me fait chut, et il me fait signe, non, pas devant tout le monde, qui me dit. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, on m'a dit qu'il collectionnait les culottes.
Alors, d'accord.
Bah oui, il collectionne peut-être les culottes. Mais il n'y a rien à côté.
Oui, il n'a que des culottes finalement. Oh, c'est une histoire incroyable, Marianne. Alors, comment c'est l'émission comme ça? Waouh!
C'était génial.
Ah bah oui, c'était il y a combien de temps, c'était ça? Vous vous en souvenez de la date?
En 2003,
d'accord.
C'était pour aller en Guadeloupe et je l'ai croisé là-bas.
Eh ben, sacré coquin le Doc Gynéco, hein. Il collectionne les culottes, eh ben.
Oh, on a bien rigolé.
Bah oui, bah voilà. Ça je veux bien croire. Puis nous aussi, on a bien rigolé grâce à vous, Marie-Reine. Je m'attendais pas à ça, vraiment. Mais merci
c'est
beaucoup.
Court parce que ça coupe régulièrement.
Ah ben non, mais vous entendez très très bien. Toute la France sait que vous avez donné votre culotte à Doc Gynéco, voilà.
Oui, bah c'est pas grave, ça fera parler un petit peu. Ça
oui, bah voilà, et puis c'est mignon les collections. Il y en a qui collectionnent les boîtes de camembert, d'autres ils collectionnent les petites culottes.
Voilà. Les petites culottes.
Dont la vôtre. Merci Marie-Reine, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir
merci
donné
beaucoup.
Autant de bonne humeur pour le début de cette émission. Vraiment, ça fait du bien. À bientôt Marie-Reine. Dans un instant, nous quittons le Var pour Nice. On sera pas bien loin chez Brigitte. Alors Brigitte, c'était pas drôle du tout. Elle a connu un naufrage, c'était pratiquement titanique. Elle va nous raconter ça. Vous aussi, venez nous rejoindre pour nous parler de tout ce qui a pu vous arriver d'insolite, de catastrophique, de pas anodin finalement, sur un bateau, un avion, dans un car, dans le métro, dans le tramway, en voiture, en covoiturage. 0810 055 056, vous avez la parole comme chaque soir jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Un atterrissage catastrophique, un accouchement sur le quai de la gare, une rencontre amoureuse dans un wagon couchette, des passagers célèbres à côté de vous. Quelles sont les histoires les plus insolites qui vous sont arrivées dans les transports en commun, dans le métro, le tramway, le bus, le train, le bateau, l'avion, en voiture? 0810 055 056 pour nous raconter les moments les plus drôles, catastrophiques, inquiétants, étranges qui vous sont arrivés. Et nous sommes, je vous le disais, avec Brigitte à Nice. Bonsoir Brigitte.
Oui, bonsoir.
Alors par rapport à l'histoire de Marie-Reine juste avant, vous c'est beaucoup moins drôle ce qui vous est arrivé.
Effectivement, c'est beaucoup moins drôle. J'ai connu l'expérience d'un naufrage en Tunisie, à Monastir. Un naufrage sur un bateau pirate qui s'appelait le Sultan.
Et pourquoi vous étiez sur un bateau pirate?
Enfin, un bateau pirate parce que ce sont des bateaux pour touristes. Et donc, je m'étais inscrite avec mon fils de 16 ans pour une sortie sur une île.
D'accord, vous êtes tombée sur des escrocs, des gens qui font passer les touristes en se faisant passer pour une société touristique, mais ce n'est pas le cas, c'est ça?
Ah non, non, pas du tout.
Ah non, mais pourquoi pirate alors?
C'était un bateau pirate parce qu'il y a plusieurs bateaux pirates. Ce sont des bateaux qui ressemblent à des bateaux de pirates.
Ah oui, d'accord.
Voilà, ce sont des bateaux pour touristes, en fait.
Ok.
Voilà, alors ils brillent bien, donc ils font flambant neuf, etc. Et donc, on s'était inscrit à une sortie sur une petite île. Et le matin, déjà, ça commençait bizarrement. On était dans le hall de l'hôtel avec un autre couple et puis on voyait personne d'autre. Et alors, on s'inquiétait. Et en fait, le groupe était déjà parti de l'hôtel pour rejoindre le port et nous avait oubliés.
Ça commence pas très bien la journée, effectivement, là.
Voilà. Et alors, on nous a envoyé, en fait, un taxi. Et on a rejoint les gens de l'hôtel, donc au port, pour faire cette sortie. Alors, bon, moi, du coup, on a sympathisé avec le couple. La balade était très sympa, un petit peu remuante pour aller jusqu'à Lille. On devait faire un repas sur l'île, se baigner. Et en arrivant là-bas, il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc on changeait deux fois de petit bateau pour arriver vraiment jusqu'au restaurant. Donc une fois, donc on a le repas, on se baigne et je vois les gars de l'équipe de l'équipage qui s'agitent un petit peu. J'étais pas loin et j'ai entendu qu'ils disaient faut vite repartir parce que la mer sera très très agitée. Alors voilà, donc ils ont fait monter tout le monde petit à petit dans des petits bateaux pour rejoindre le grand bateau.
Oui.
Et ça durait longtemps, donc le bateau pirate, donc le Sultan, était toujours, les moteurs étaient allumés en attendant. Et j'ai discuté avec un gars de l'équipage et j'ai dit, mais vous ne trouvez pas que la mer est quand même un peu trop démontée pour rentrer
Vous aviez combien de traversées à ce moment-là?
Écoutez, on devait avoir une heure de traversée.
Ouais, ouais, quand ça se coupe, c'est long, hein.
Une heure et demie, voilà. Je lui ai dit, vous êtes sûr qu'on peut partir finalement? Il me dit, oui, oui, pas de problème. J'ai déjà connu une grosse tempête en Atlantique. Ça, c'est rien à côté. Bon, très bien. Et au bout d'un long moment, quand tout le monde est arrivé sur le bateau, on est reparti. Et à ce moment-là, bon alors du coup il y avait des grandes vagues, des grands creux, et on riait, on était sur l'avant, bon j'avais sympathisé avec des gens, mon fils avec d'autres jeunes, on riait, on était trempés, et puis au bout d'un moment j'en avais marre de me faire tremper, alors je me suis dit je rentrais à l'intérieur, et du coup j'ai essayé d'aller vers la cabine, et il y a eu un grand creux à ce moment-là. Et j'ai fait un saut de 2 ou 3 mètres et j'ai été contre les bancs en bas en bois et bon j'ai été blessée au dos donc là ça commençait très mal, c'était le début des vacances, je me suis dit ça y est mes vacances sont fichues donc j'étais allongée par terre
ça bougeait tout le temps forcément.
Ça bougeait énormément, mais bon il y avait une bonne ambiance sur le bateau. Et à un moment donné, il y a eu la musique du Titanic. Et alors, tout le monde a fait « Ouh !» Tout le monde a crié quand il y a eu cette musique-là. Et juste après, les moteurs se sont arrêtés.
Oh-oh.
Et avec des vagues assez importantes quand même. Et j'ai vu le gars de l'équipage là avec qui j'avais discuté. Il vient en courant et j'ai vu ses yeux et dans son regard j'ai vu que oula que c'était pas très bon ce qui nous arrivait. Alors il n'arrivait pas donc à faire redémarrer les moteurs hein, et on a comme ça avancé et puis à un moment donné le bateau on a entendu un rrrr au fond de l'eau et c'était la coque sûrement qui se déchirait. Et alors tout le monde discutait devant sur l'avant du bateau. Le groupe auquel j'appartenais, de l'hôtel et tout. Et à l'intérieur, il commençait à y avoir des grands cris parce qu'apparemment, il n'y avait pas assez de gilets de sauvetage. Donc, ça criait beaucoup et puis ça criait aussi en arabe. Alors, c'était un peu effrayant, cette ambiance. Donc, il y a mon fils qui a 16 ans qui discutait aussi avec les adultes et à un moment donné j'ai dit mais il faudrait il y avait une grande corde entourée là devant là sur l'avant du bateau et j'ai dit il faudrait quitter le bateau parce que si jamais il se retourne on risque d'être blessé encore plus par le voilà. J'ai pu me redresser au bout d'un moment parce que j'ai une dame en face de moi qui était accroupie par terre et qui tenait ses 2 enfants. Et à un moment donné, j'ai vu qu'elle criait après des gens. Elle disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme ça? Moi, je comprenais rien parce que comme j'étais couchée par terre de par ma blessure, donc c'est là que j'ai vraiment réussi à me relever au bout d'un moment. J'ai vu plein de gens sur la jetée. En fait, on était arrivés sur la jetée. On devait être à 500 mètres de la plage, quelque chose comme ça.
Heureusement.
Ouais. J'avais pas réalisé qu'on était si proche en fait et si loin en même temps. Et effectivement, il y avait des gens qui étaient en train de filmer, prendre des photos. J'avais l'impression de tourner un film en fait. Voilà.
Ouais, sauf que c'était la vraie vie. Donc au final, ça s'est bien terminé. Tout le monde a pu sortir du bateau. Vous êtes arrivé sur l'île, enfin sur le.
Oui. On a été transportés avec des bateaux là, pneumatiques. Là. Et voilà, sauf que mon fils n'arrivait pas. Et j'ai attendu bien 2 heures, enfin, je sais pas, 1h30 peut-être. Sur le bord de la plage où il y avait plein de monde et au bout d'une heure et demie, il faisait nuit et mon fils en fait était rentré à la nage, ils avaient plongé avec trois autres hommes et il s'en était sorti et de suite après le bateau s'est accoulé et a été explosé en 1000 morceaux.
Oh là là, mais quelle horreur la fin de cette histoire. C'est là où on se dit que finalement ce qu'on voit dans les films à chaque fois on se dit ah, c'est un film, mais quand ça arrive, et là heureusement vous étiez près du rivage et on a pu mettre tout le monde à l'abri, mais c'est assez angoissant quand même ce qui vous est arrivé. Brigitte,
oui, puis il y a même un des canaux de sauvetage qui s'est retourné à un moment donné. Quand on est arrivé au bord de la plage avec les vagues et tout, c'était les gens de la ville, hein, de Monastir qui étaient là. Et j'ai un monsieur qui m'a mis sa chemise sur les épaules, ça je l'oublierai jamais. Il y a un des jeunes hommes sur le bateau qui avait donné un gilet de sauvetage à mon fils en disant « tu en auras besoin sûrement pour aider ta mère ».
C'est dans ces moments-là aussi qu'on voit effectivement la solidarité. Est-ce que c'est chacun pour soi ou est-ce qu'on essaye de faire en sorte de s'entraider tous ensemble pour y arriver et sauver tout le monde? C'est aussi dans ces moments-là qu'on reconnaît ses amis ou qu'on en découvre d'autres. Brigitte, merci beaucoup d'être venue témoigner sur cette histoire de naufrage donc en Tunisie. On était avec vous là. On a vraiment vécu la scène. Histoire pas rigolote. Hein. Je disais qu'on allait passer une soirée où on allait rigoler. Pas que, effectivement. Et puis de toute façon, c'est pas fait que pour rigoler. Quand on parle de ce qui a pu vous arriver dans les transports en commun, on a vraiment de tout. Hein. On a eu une rencontre plutôt cocasse avec Doc Gynéco dans un avion. On a eu ce naufrage avec vous, Brigitte, en Tunisie. Et vous aussi, vous avez peut-être vécu des choses incroyables, insolites dans les transports en commun. Venez nous rejoindre sur France Bleu. Je vous attends jusqu'à 22h au 0810 055 056.
Contez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
J'imaginais en écoutant les Village People, un covoiturage où on n'est pas d'accord sur la musique. Comment on fait quand on se retrouve avec quelqu'un qui met des cassettes? Oui, il y a encore des gens qui mettent des cassettes, qui met une cassette d'un chanteur que vous détestez. Ça doit être horrible de passer 2 heures, 3 heures, 5 heures en voiture comme ça. Généralement, on demande avant pour la musique. On peut parler de covoiturages qui se sont pas très très bien passés puisque ce soir, on parle de toutes les histoires insolites qui vous sont arrivées dans les transports. Et je vous attends au 0810 055 056. Nous sommes avec Michel Reims. Bonsoir Michel.
Bonsoir Vanessa.
On va repartir en 2010 avec une histoire qui a fait le tour du monde, l'histoire du volcan islandais, dont je ne donnerai pas le nom parce que je n'y arrive pas.
Et Jafalajökull.
Oh bah là, bravo. En même temps, vous en avez pas mal entendu parler et vous avez eu le temps d'apprendre à prononcer son nom surtout. Ouais. Racontez-nous, vous étiez où à ce moment-là?
On était à Djerba en fait, donc j'étais avec ma famille, mon épouse et 2 filles. Et puis, c'est tout, on était au mois d'avril, c'était du 11 au 18 avril, en fait, notre séjour. Et en définitive, on a appris la veille, peut-être, qu'on pouvait pas repartir le 18 avril 2010, parce qu'il y avait ce fameux volcan qui paralysait la totalité du ciel, en Europe, on va dire. Et donc, le retour était retardé, mais on savait pas de combien de temps. Ce qui fait que ça a créé une espèce de mouvement un peu, alors, et de panique et de solidarité entre les gens qui étaient dans le même hôtel, si vous voulez. C'était un séjour, vous savez, les clauses inclusives.
Oui, d'accord.
Et donc voilà. Donc et c'est ce mouvement-là qui était très intéressant parce que en définitive, on savait pas trop. Alors tout le monde téléphonait un peu à son employeur, à l'école, etc. pour dire écoutez, le retour est compromis, on pourra pas revenir le 18 avril 2010 comme prévu, mais on sait pas exactement de combien de temps ça va être retardé.
Voilà. Et comment ça se passe dans ces cas-là? C'est compris, on peut rester à l'hôtel plus longtemps, on est obligé d'aller à l'aéroport? Comment fait pour vous?
Si vous voulez, c'est des formules forfaitaires. Hein. Donc les gens, ils achètent un séjour du 18 du 11 au 18 avril 2010.
Mais le 18, il faut partir.
Bah oui, il faut partir le 18. Et s'ils peuvent pas partir, bah, l'agence qui vous a vendu le voyage, en règle générale, elle dit, bah, écoutez, là, c'est pas de mon ressort, c'est un cas de force majeure, c'est un volcan. Et par conséquent, bah, tous les frais supplémentaires sont à votre charge.
Oh là là.
Alors, c'était marrant et pas marrant. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, je me souviens, une personne qui était malade, mais gravement malade, et qui devait rentrer à tout prix le 18 avril 2010. En fait, c'était un séjour qu'elle s'était autorisé, sûrement parce que pour faire une pause dans sa maladie d'une certaine manière.
Oui.
Et pour cette personne-là, c'était dramatique de ne pas pouvoir repartir le 18 avril parce qu'elle devait avoir sûrement des traitements et des suivis de traitements qu'elle ne pouvait pas faire.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Vous avez passé des coups de fil à la compagnie, ça n'a pas marché? Je crois que vous êtes allé jusqu'à un procès, hein, Michel.
Enfin, en ce qui me concerne. Après, les gens n'ont pas fait ça, évidemment. Mais au départ, ce qui était marrant, c'est que d'abord, on a essayé de négocier avec l'hôtel, qui était pour rien non plus, hein, si vous voulez, une baisse des tarifs, parce que c'est quand même assez cher, définitive. Et on a réussi à faire une petite pétition. Et on a rencontré le directeur de l'hôtel avec son équipe. Ils étaient super sympas d'ailleurs, hein, les gens. Et ils ont décidé de réduire de 50% le prix du séjour, le prix de la nuit complémentaire. Quoi.
Sympa, ouais. Le geste était sympa.
Alors certes, pour certaines personnes, vous savez, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui calculent leur budget de façon très serrée, qui n'ont pas beaucoup
mais
de moyens.
Mais bien sûr.
Pour eux, c'était quand même cher malgré tout. Pour d'autres, c'était une bonne nouvelle, mais ça restait quand même assez cher. Moi, je trouve qu'il y avait des gens qui ont un peu souffert quand même de ces 4 jours complémentaires, parce que finalement, on n'est revenu que le 22.
Oui, alors pour certains, ça fait des vacances prolongées. Pour d'autres, c'est un peu la cata financière, professionnelle, la gestion de la famille, de plein de choses. Hein. Ben oui, bien sûr.
C'est ça. Et donc après, ben, en revenant, moi j'habite Reims, donc dans la Marne, en revenant sur Reims, ben, j'ai fait un courrier à l'agence qui nous a vendu le voyage forfaitaire, le voyage avec le forfait, pour leur dire, bah, écoutez, je trouve que commercialement, vous pourriez faire peut-être un geste pour prendre en charge les 4 jours supplémentaires. Mm-hmm. Et bien sûr, ils m'ont envoyé bouler, si vous préférez. Ouais. Donc voilà. Et comme je suis prof de droit, alors j'ai regardé un peu ce qui se disait un peu dans l'histoire, et j'ai trouvé un article dans le code du tourisme qui permettait peut-être de faire valoir ma position. J'ai fait un premier procès, et j'ai perdu. J'ai perdu en première instance, on va dire. Et ensuite, je suis allé en cassation et j'ai gagné en cassation. Donc, ça a fait un peu jurisprudence. C'était assez marrant, quoi. Donc,
toujours partir avec un prof de droit. C'est toujours important.
Voilà, c'est
toujours intéressant.
Je suis blacklisté au niveau de cette fameuse agence de voyage, je pense.
Oui, bah tant pis. Il y en a plein d'autres, hein, Michel.
Voilà. C'était marrant. C'était un truc bizarre. Et puis, on a pu voir comment les gens réagissaient dans des circonstances un peu particulières. Il y avait des gens plutôt qui étaient, je dirais, très solidaires à l'égard des autres, et puis d'autres qui étaient plus sur leur propre situation. Donc
c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec Brigitte, hein, l'histoire du naufrage, où c'est là où on voit vraiment comment les gens réagissent dans des situations un petit peu compliquées.
C'est exactement ça.
Bon, vous êtes reparti depuis, Michel, depuis 2010. À chaque fois, vous y pensez, vous dites, bon, alors, est-ce qu'on a tout bien regardé, les clauses sur les voyages, on fait peu plus attention?
Non, je ne fais pas ces choses-là, parce que moi, quand je voyage, je suis heureux de voyager. Hein. Je ne me pose pas de questions métaphysiques sur ces choses-là. Mais en revanche, le dernier voyage, c'était à New York, et ça s'est très, très bien passé.
Juste en quelques mots, Michel, c'est quoi cette histoire de clause là, que vous avez regardée? Qu'est-ce qui peut jouer, d'ailleurs, que vous avez pu gagner?
Il y a un code qui s'appelle le code du tourisme, qui prévoit une fois que vous êtes parti, dans le cadre d'une agence de voyage, hein, votre voyage est organisé. Une fois que vous êtes parti, s'il y a des problèmes qui se passent après le départ, c'est l'agence de voyage en fait qui est responsable, enfin qui est responsable entre guillemets, qui doit supporter les conséquences financières d'un éventuel prolongement.
D'accord, voilà. Bah, c'est super bon à savoir ça.
Le tourisme qui n'avait jamais été encore invoqué devant la Cour de cassation, c'était la première fois qu'il était invoqué. Et en définitive, la Cour de cassation, elle l'a interprété exactement de la même manière que moi je l'ai lu. C'est-à-dire, je me suis dit, même la force majeure, parce qu'il est vrai que c'est pas un problème de responsabilité. L'agence de voyage n'y est pour rien, si vous voulez.
Vous ne pouvez pas rentrer à la maison.
Voilà. Donc, la question, elle n'est pas sur la question de la force majeure, elle est sur la question de, vous avez vendu un forfait à des gens, il s'est passé un problème, c'est pas de votre faute, c'est pas de leur faute non plus d'ailleurs, hein. Vous devez supporter parce que voilà, c'est un article spécial.
C'est intéressant de le savoir.
Ouais, c'est bien.
Merci beaucoup.
Ça fait l'objet d'une dépêche AFP.
Bravo, vous faites.
C'était un truc un peu particulier. Quoi.
Ah ouais, puis ça a dû faire. Comme vous dites, ça fait jurisprudence et surtout il y a certainement plein de gens qui ont découvert cette clause grâce à vous.
Je pense pas, Vanessa, parce qu'en fait les gens. Si vous voulez, pour aller devant la Cour de cassation, il faut prendre le risque financier.
Ça oui, c'est sûr.
Hein, la Cour de cassation. Donc, il y a plein de gens, et je les comprends tout à fait, hein, qui ne le font pas pour des raisons financières. Mais après, bon, bah voilà. En définitive, j'ai perdu du fric hein, dans l'histoire. Hein. Parce qu'entre le premier procès, la cour de cassation, etc., je retombe pas sur mes petits. Mais en gros, j'ai plus agi sur le principe en me disant bah, peut-être qu'un jour, ça fera jurisprudence dans le sens où les agences, elles comprendront que finalement, pour le particulier, c'est quand même un préjudice financier important. Quand même,
oui, puis elles comprendront qu'on ne discute pas, quoi, qu'on, voilà, les clients sont bloqués, on fait quelque chose, on n'attend pas, effectivement. Merci beaucoup, Michel, d'être venu sur cette histoire assez incroyable, effectivement, qui a touché beaucoup de monde. Hein. On se souvient qu'on avait tous un peu dans notre entourage quelqu'un qui était un peu bloqué quelque part en Europe. Effectivement, ça a bloqué toute l'Europe du Nord. Michel, merci beaucoup d'être venu ce soir. On vous embrasse. Belle soirée à Reims. Et jusqu'à 22h, vous aussi, vous avez la parole. Venez nous parler des aventures incroyables, rigolotes, insolites qui vous sont arrivées dans les transports en commun ou dans les transports en général. 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les histoires insolites dans les transports en commun, c'est le sujet dont se dit tout ce soir et c'est vous qui nous racontez vos histoires les plus incroyables en avion, en bateau, en train, dans le métro, dans un bus, dans le tramway, en covoiturage. 0810 055 056. 56, atterrissage forcé, mauvaise destination. Tiens, puisqu'on en parle, Aurette, on essaye de vous joindre. Si vous nous entendez, rappelez-nous vite parce qu'on aime bien votre histoire. Mauvaise destination, donc passager insupportable, un conducteur improbable, mais aussi des belles rencontres, des histoires d'amour. Pourquoi pas, à vous de nous raconter ce qui vous est arrivé dans les transports en commun. Et nous sommes dans le Var maintenant chez Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
On va remonter le temps. Vous avez 20 ans à l'époque, c'était il y a 40 ans.
Il y a 40 ans, voilà, j'étais jeune et beau à l'époque.
Oh, mais je suis sûr que vous l'êtes encore, Jean-Louis.
Bien sûr.
Vous êtes beau, un tout petit peu moins jeune, voilà.
Voilà.
On va le dire comme ça.
Vous me direz combien je vous dois pour le coup.
Rien du tout, on va pas parler d'argent parce que, oh là là, quand je vois ce qui arrive, racontez-nous.
C'est justement, je veux parler d'argent. Ben, j'étais donc militaire et je rentrais donc, à l'époque, on faisait les voyages en tenue. Et je rentrais donc sur Rambervillers dans les Vosges là-bas.
Oui.
Et donc, je prends mon bus, le train, et je monte donc dans le compartiment. Et là, une blonde sublime avec une petite jupe. Je me rappelle la vieille jupe à carreaux, vous voyez, c'est le bas marqué. Et donc une blonde sublime. Il me fait donc, on discute un peu, et au fur et à mesure de la route, donc, le rail, on fait copain, et ce qui devait arriver, arriva.
Qu'est-ce qui est arrivé? Non, je rigole. Et... Vous avez couché ensemble.
Voilà, exactement. On a couché ensemble, tout, on a passé une excellente, après nuit, puisque c'était fin de nuit.
Un petit moment, quoi.
Voilà, un petit moment. Et puis, donc, juste avant de sortir, elle m'a demandé 100 francs. C'est une prostituée, elle voulait que je la paye.
Ah, vous n'avez pas prévenu dès le départ, en fait.
Ah non.
Et du coup, comment vous réagissez à ce moment-là, Jean-Louis? Vous les avez déjà, les 100 francs?
Ah, je ne les avais pas. Vous passez donc à 14 des militaires, on ne les a pas. Hein.
Ouais, bah oui.
Mais elle m'a dit qu'elle me faisait cadeau, que la prochaine fois, ça serait pour elle.
Oh, c'est gentil.
Voilà.
C'est gentil. Ah, ça a dû vous marquer quand même, cette histoire.
Ah
hein.
Oui.
Ah,
oui,
ah bah oui, à 20 ans, une femme sublime avec une petite jupe à carreaux qui se pointe, ouh. Ça donne chaud quand même un peu, hein?
Ah, c'était très chaud dans le... Alors, en plus de ça, elle avait fermé le compartiment. Et donc, elle était toute nue, donc, dans le compartiment. Et c'est arrivé le contrôleur. Elle avait passé juste la tête. Et elle a dit, bon, le contrôleur, il devait avoir l'habitude. Elle a dit, bon, des bonnes continuations.
Hein, ils étaient cool, les contrôleurs, à l'époque. Mais c'était une autre époque, hein, le train. Effectivement, il y avait des compartiments. On ouvrait les portes, on pouvait être tranquille. C'est un autre temps, Jean-Louis. Ça fait du bien de remonter le temps aussi avec vous. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'être venu témoigner ce soir sur France Bleu. À bientôt.
À bientôt, merci. Au revoir.
Aurette est avec nous dans le Loiret. Bonsoir, Aurette.
Bonsoir.
C'est une histoire de train aussi pour vous. Vous prenez le train à Besançon. Vous deviez aller où, d'ailleurs, au départ?
Je devais aller à Sévérac-le-Château.
Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, j'avais un changement de train à Clermont-Ferrand.
Ouais.
Et il y avait deux trains qui partaient pratiquement à la même heure, un hein, qui allait sur Toulouse et l'autre qui allait sur Béziers. Il fallait que je prenne le train qui allait sur Béziers, j'ai pris le train qui allait sur Toulouse.
Et vous en êtes rendu compte à quel moment?
Ben, je m'en suis rendu compte quand on a traversé un village où j'avais passé des vacances. Et puis je me suis dit, mais... qu'est-ce que je fais là? Et alors, j'ai la gare suivante, j'ai cherché le contrôleur, et puis j'ai demandé si c'était bien le train qu'elle est là. Ben non, non, pas du tout, il fallait prendre le train de Béziers, vous avez pris celui de Toulouse. Alors il me dit, ils étaient très gentils, c'était la nuit de Noël, c'était le 24 décembre en plus. Et ils ont été voir le responsable de la gare et pour savoir comment je pouvais faire. Et puis ils m'ont dit, vous descendez à telle gare, je sais plus le nom. Et puis vous irez à Amende. Et à Amende, vous verrez comment faire pour rejoindre la route.
Pour reprendre le bon train pour aller à votre destination, en fait.
Pour prendre le train de Béziers. Mmh. Alors j'arrive à Amende, je me renseigne et tout, et puis il n'y a pas de train avant le lendemain matin. Et puis je téléphone chez mes parents, je leur dis que je me suis trompée de train, donc ils peuvent venir me chercher. Ah ben non, on peut pas venir te chercher. Et puis tant pis, hein, tu vas à l'hôtel et puis on se reverra demain.
Bon, joyeux Noël. C'est un peu dur quand même comme réveillon du 24.
Ah oui, c'est pas évident, enfin c'est comme ça. Et le lendemain matin, je vais à la gare de Mende. Mende, c'est tout petit comme ville. Et là, je vais pour prendre le train. Et je me retrouve toute seule avec le contrôleur. Et le contrôleur qui me dit, venez dans les premières classes, il fait plus chaud et tout. J'ai dit, oui, mais j'ai un billet de seconde. Il dit, attendez, on va ranger ça. Et il marque deux, il met le 2 à la place du 1.
Sympa, puis c'était le jour de Noël quand même. C'était le petit cadeau de Noël.
Oui.
C'était un petit peu ça. Déjà que vous aviez passé le 24 toute seule, c'est un petit peu dur. Souvent, ils sont sympas, les contrôleurs. Enfin, je dis ça le 25, le 1er janvier. Quand on oublie de composter, quand on oublie même le billet... Parfois ça passe, je dis parfois. Aurette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. On va quitter le train pour le métro avec Philippe Aumont. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Vanessa.
Enfin, bonsoir. Pas le métro du Mans, mais le métro de Paris. Hein.
Non, voilà, c'est ça. Maintenant, je suis au Mans. Parce que cette histoire, en fait, est arrivée en 1966.
Ah oui, d'accord.
À cette époque-là, donc je suis très, très jeune, bien sûr.
Bien sûr.
Je travaille dans un très, très beau quartier. D'ailleurs, je remercie tous ces gens de ce quartier, s'il y a des gens qui sont à l'écoute. Donc, des gens du 16e arrondissement, ces gens m'ont apporté énormément de choses. Déjà, j'ai changé mon verbiage parce que je sortais de Ménilmontant. Et donc, c'est pas là qu'on apprend vraiment bien à parler le français. Alors, l'histoire est tout simple parce qu'il faut quand même, parce qu'on sait de la radio, et la radio, c'est vraiment merveilleux pour ça.
Donc, on ferme les yeux et on y est, c'est ça?
Vive France Bleu, voilà, vive France Bleu pour ça. Et donc, je vais essayer de vous planter le décor. Donc, le métro, il est rouge et vert à l'époque. Les anciens, les vieux métros qu'on avait là, qui étaient absolument très solides et très fantastiques. Donc, moi, je suis rue de la Pompe, et mon petit patron d'amour me dit, il faut que tu rejoignes, machin, donc je vais rejoindre le collègue de travail, et je vais là-bas le rejoindre, et en même temps, j'amène aussi du matériel. Alors à l'époque, on mettait encore des fils sous des baguettes. Là, je sens qu'il y a des gens qui rigolent derrière. Des baguettes en bois. Donc ces baguettes faisaient 2 mètres de long. Elles n'étaient pas très grosses en fait. Hein, parce qu'un petit paquet de moulures, comme on appelait ça, faisait à peine plus gros que le poignet dans le poignet de la main, une poignée quoi. Donc je monte dans mon métro, voilà l'histoire. Je monte dans mon métro et je reste debout, je reste à côté de cette barre verticale, vous savez, qui est entre le sol et le plafond.
Oui, pour s'accrocher. Ouais.
Voilà, donc pour s'accrocher. Et là, j'ai un monsieur qui monte, mais alors, un type vraiment, ce qu'on pourrait dire, exceptionnel, très très bien habillé, quoi. Quelqu'un de très soigné, des gens du quartier, bien sûr, c'est normal, quoi. Donc je vois ce monsieur qui monte et qui était en train de lire son journal. Et d'une main, quand le métro a démarré, parce que le démarrage était un petit peu sec quand même, quoi. Et ce monsieur, dans son petit déséquilibre qu'il a eu, au lieu d'attraper la barre justement de maintien, il part avec mon paquet de baguettes.
Ah d'accord. Et il n'est pas tombé, ça va ?
Alors le monsieur, je le vois partir, mais je le vois partir parce que comme on était en bout de wagon, donc les fins de wagon étaient un petit peu arrondies. Donc là, il arrive directement sur une dame avec le paquet de baguettes. Il était vraiment complètement en déséquilibre. Et donc je me suis dit, la dame, elle va, et je l'ai vu déjà, elle avait les bras en croix sur le visage.
Elle va se prendre la baguette.
Ouais. Et puis là, donc, non, il s'est rien passé. Donc j'ai vu ce monsieur très gentleman en train de s'excuser auprès de cette dame. Et moi je me disais, il va se retourner, il va m'engueuler. Et en fait, finalement, non. Il s'est retourné. Il y avait peu de monde dans le wagon. Et ce qui m'a surtout rassuré, c'est que tout le monde rigolait. Alors moi, bon, ça, bien sûr, j'étais d'abord, je rigolais pas du tout. Hein, j'ai eu peur. Et puis, le sourire m'est venu. Et je me rappelle quand je suis descendu quand même de ce wagon, j'ai vu ces gens de temps en temps. Il y avait quelqu'un avec une petite main. Coucou, au revoir, merci de nous avoir fait rire. Parce que finalement, j'ai déclenché. Hein.
Bon, et ça fait du bien parfois aussi dans le métro quand il se passe des histoires comme ça. Ça permet de dérider tout le monde. Philippe, on est un peu pris par le temps. Malheureusement, les infos arrivent. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur France Bleu, je l'espère.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vos histoires les plus incroyables qui vous sont arrivés dans les transports en commun, c'est ce soir sur France Bleu au 0810 055 056. Voisin dragueur, chauffeur pas forcément très en forme, accouchement imprévu, vomi impromptu. Oui, j'aime bien le vomi moi ce soir, j'attends une histoire comme ça parce que quand on est dans des bateaux, quand on est dans des transports en commun et qu'il se passe des choses quand même où ça bouge pas mal, c'est bien de pouvoir en parler. Hein. Non mais ce soir on se dit tout, il n'y a pas de souci et on va accueillir Yolande à Marennes. Bonsoir Yolande.
Bonsoir Vanessa.
Alors vous êtes une femme très chanceuse, on peut le dire, avec les transports.
Je dirais que j'ai que des problèmes que du bonheur.
Que des problèmes de bonheur.
À l'époque, j'étais jeune aussi en même temps. Quand on est jeune, on peut se permettre beaucoup de choses. Ma première expérience, c'était sur le TGV Paris-Lyon à l'époque. Ça faisait pas longtemps qu'il roulait. Et puis j'ai demandé l'autorisation d'aller visiter la tête de la machine, etc. Et ça m'a été accordé, donc je suis allée, etc. Donc j'ai vu Paris-Lyon depuis la machine, et c'était un vrai bonheur.
Ça fait peur ou pas, Yolande?
Oh, pas du tout.
Non?
Non.
Ça va vite quand même.
Oui, non, mais à l'époque, le TGV, bon, c'est un escargot maintenant. Et puis après... j'ai eu l'occasion de faire du Paris-Rome assez souvent, mais en avion cette fois. Et j'ai assez souvent aussi demandé l'autorisation d'aller dans le cockpit.
Et là, ça marche en fait, il suffit de demander, c'est ça?
Je pense que j'ai 75 ans. Je pense que si je le fais maintenant, on me dira non avec les trucs de terrorisme et autres et tous les etc. Mais bon, à l'époque, j'avais 40 ans, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Et puis, j'avais la chance de voyager en première, il n'y avait pas beaucoup de monde, etc. Et puis, quand je demandais, j'y allais. Donc, un jour, je suis arrivée dans le cockpit de l'avion, et c'était un Paris-Rome, et j'ai expliqué que j'étais née à Roissy, en France. Et donc, le pilote a dit, écoutez, on va vous faire un atterrissage manuel sur Roissy, en France, puisque vous êtes née là. Et c'était magique, magique. En plus, ils étaient... super gentil, adorable, enfin, un vrai bonheur.
Est-ce qu'on a moins peur? Parce que alors vous êtes habitué, mais parfois les gens qui ont peur de l'avion, on leur fait des simulations comme dans un cockpit. Est-ce que le fait de voir le ciel, le fait de voir autre chose que par un hublot?
Moi, j'ai pas eu peur.
Non, mais vous avez pas peur, mais la vision est différente quand on est dans le cockpit, on est d'accord?
Oui, mais non, parce qu'on est avec les pilotes aussi en même temps. Ils étaient trois dans le cockpit à l'époque. Maintenant, je sais plus combien ils sont. Mais là, il y avait le pilote, le copilote et le mécanicien. Donc, on m'installe sur le troisième siège. En plus, on m'a apporté une coupe de champagne.
Mais quelle classe! Mais quelle classe! Alors, vous avez fait le TGV.
Sur Roissy en France, etc.
L'avion. Voilà. Et vous n'avez pas fait le bateau aussi?
Si, parce que j'ai traversé l'Atlantique. Et là, j'ai traversé l'Atlantique sur un bananier. Donc, il y avait 40 hommes d'équipage et 7 passagers. Dont une passagère.
Vous étiez la seule femme?
C'était moi.
Ah oui.
Et là, c'est pareil. On avait tous les soirs dîner avec le commandant de bord, etc. Et puis, quand j'ai demandé aussi l'autorisation d'aller piloter le bateau, on m'a mis en face des manettes. Mais là, ça a réveillé le commandant quand même. Parce qu'au bout d'un moment, il est monté dans la salle des machines. Il m'a attrapé par le coude, il m'a envoyé sur la passerelle, il m'a fait regarder à l'arrière ce qui se passait, et puis j'ai vu que effectivement le bateau il dérivait à droite et à gauche, etc. Il divaguait un peu quoi.
Vous faisiez n'importe quoi en fait.
Ben voilà.
Ah ben bravo.
Mais en fait, ils m'ont rassurée en me disant, vous savez, on a déjà fait ça à des passagères et on leur avait mis le pilotage automatique.
Ah oui.
Mais vous, on vous a laissé le pilotage manuel. Voyez le résultat.
Ouais. Bon, heureusement, l'océan est grand quand même. Hein.
Ah oui, oui, je ne suis pas rentrée dans les fossés.
Heureusement. Yolande, chanceuse que vous êtes, en même temps, quand on est à Roissy, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe avec les transports. Hein. Ça paraît logique, effectivement.
Bah, surtout que quand je suis née, c'était encore des champs de blé et des champs de betteraves. Hein.
Ah oui, voilà. D'accord. Il y avait rien, hein. Merci Yolande d'être venue témoigner ce soir avec toutes ces histoires que vous avez vécues. Que du bonheur vraiment dans les transports, dans la cabine du TGV, dans le cockpit d'un avion, dans la cabine du bateau. Vraiment, c'était chouette de le partager avec vous. On va rester dans l'avion avec Marie à Marseille. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir Vanessa.
Avec une rencontre, comment ?
Vous m'entendez bien ?
Ben oui, je vous entends très bien Marie. Bon, vous aussi, d'accord. Vous avez fait une rencontre surprenante dans un avion.
Oui, alors je vais vous expliquer. Alors, fin de l'année 2015, je me suis réveillée en pleine nuit et je venais de rêver que Monsieur Sarkozy était au bout de mon lit et il me regardait.
C'est un rêve ou un cauchemar pour vous ? Ça dépend.
Bon, non.
Un rêve.
Oui, un rêve, c'était vous, oui, c'était un rêve. Et il faut que je vous dise que mon lit se trouve contre le mur et il était positionné dans l'angle.
Oui.
Et donc je le regarde et je lui dis, mais Monsieur Sarkozy, mais qu'est-ce que vous faites là ? Il me dit, bon, il ne me répond pas. Bon, je me recouche. Une heure après, je me réveille en sursaut. Je venais de rêver de Monsieur Hollande. Il m'a pris un fou rire, mais un fou rire. Je lui ai dit, c'est pas possible. Alors j'ai cherché, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a eu un débat politique récemment ? Parce que franchement, rêver de président, c'est bon, je fais pas de politique en plus. Bon.
On était en période électorale ou pas, Marie ?
Non. Bon. Et puis, l'année dernière, je reviens de Saint-Pétersbourg, je monte dans l'avion, je tourne la tête et je vois pas M. Sarkozy qui était positionné exactement comme dans mon rêve.
Quand il était au bout de votre lit ?
Oui.
C'est dingue, ça.
Ah ouais, c'est fou, hein ?
Et il y avait pas, vous avez pas vu François Hollande après ?
Non.
Non, c'était juste Sarkozy.
Non. Donc, je lui ai dit bonjour, puisque il était dans ma... directement devant moi, mais voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez...
Ah bah oui, oui, parce que voyager, bon, avec quelqu'un de connu, c'est une chose, mais le retrouver dans la position dans laquelle vous l'aviez rêvé, ça c'est fort.
Exactement.
Vous auriez dû lui dire, non ?
Comment ?
Vous auriez dû lui dire ?
Ah, j'ai pas osé te déranger.
Comment il est, Monsieur Sarkozy, pardon, dans un avion ? Il est calme, il lit
Il est calme, souriant. Non, il était très, très bien. Il a dit bonjour à tout le monde. Enfin, personne qui lui disait bonjour. Non, très bien.
Vous étiez en première, alors ?
Non, je montais dans l'avion pour rejoindre ma place, qui était en deuxième. Donc,
d'accord.
Il était juste au premier siège.
Ouais, il n'avait plus son avion présidentiel, forcément.
Ah non, et non.
Ben non, il n'était plus président.
Non, j'étais surprise, oui. Oui.
C'est toujours rigolo de croiser des gens connus. Je sais pas comment on réagit. On sait jamais trop comment réagir d'ailleurs. Est-ce qu'on va les voir ? Est-ce qu'on leur dit bonjour ? Est-ce qu'on les laisse tranquilles ?
Ah, ben je lui ai dit bonjour.
Oui,
je lui ai dit bonjour. Il m'a répondu et puis après, non, j'ai pas osé le déranger. Je me voyais mal lui dire que j'avais rêvé de lui.
Surtout au pied de votre lit.
Oui, c'était un peu.
C'était un peu cavalier.
Mais bon, il y avait rien de plus dans mon rêve. C'était juste. Juste au bout du lit, voilà.
Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment très, très insolite, on peut le dire, parce que rêver et vivre la même scène dans un avion cette fois-ci et voir le vrai Nicolas Sarkozy, c'est oui, c'est pas commun, Marie, vraiment.
Oui.
Merci beaucoup d'être venue ce soir sur France Bleu.
Au revoir
Marie. 0810 055 056. Vous aussi, vous avez croisé des gens connus dans l'avion, dans le train, dans un bateau, sur une croisière peut-être, ou alors dans le bus, le tramway, peut-être un petit peu moins, allez, pourquoi pas dans le métro. On parle ce soir de toutes les histoires qui peuvent vous arriver dans les transports, des gens connus, mais aussi parfois des situations cocasses, des histoires d'amour. On peut tomber amoureux dans les transports en commun, ça peut arriver, ça vous est peut-être arrivé. Et puis on parle aussi beaucoup de covoiturage en ce ce moment, c'est très tendance. On ne sait pas forcément avec qui on va voyager pendant une heure, deux heures, cinq heures. Est-ce que vous avez déjà eu des covoiturages un peu compliqués avec des gens un peu lourdingues, au contraire adorables avec qui vous êtes devenus amis? On vous attend jusqu'à 22h pour en parler sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Vous avez déjà dragué une hôtesse de l'air ou un steward? Vous avez rencontré l'amour dans un train, voyagé avec une star de la chanson ou du cinéma, ou alors vous avez eu la peur de votre vie dans le métro? On se dit tout, vous donne la parole. Ce soir, on parle des transports en commun où il se passe toujours quelque chose. 0810 0 55 0 56 et nous sommes maintenant en Auvergne avec Colette. Bonsoir Colette.
Bonsoir Vanessa.
On va prendre le train avec vous entre Clermont et Marseille.
Et Marseille, oui, ça date, bon, l'histoire, ça date à peu près de 35 ans.
Mais c'est pas grave, ça.
Et tout d'abord, je m'excuse parce que je suis enrhumée. J'ai pris le train à Clermont et dans une petite gare, un monsieur est monté. Je précise par contre avant que j'avais une jambe dans le plat puisque je m'étais fait une entorse. Le monsieur s'est assis à côté et au bout d'un petit moment, il a sorti un livre, bon, avec des images un petit peu compromettantes. Bon, je ne dirais pas trop de quoi il s'agit parce qu'il n'était pas tout jeune, mais bon, pour lui, ça lui faisait un peu de lecture. Et aux environs d'Arles et tout, à un moment, j'ai vu le monsieur qui commençait à pâlir et tout. Et puis, d'un seul coup, il a sa tête... sa tête est tombée en avant et sur le côté et il est tombé carrément sur mon plat, mais bon, c'est pas mon plat qui l'a blessé. Il y avait un médecin dans le train qui a diagnostiqué une crise cardiaque.
Et ils ont pu le sauver?
Ah non, non.
Ah mince.
Il n'a pas souffert du tout. Bon, on s'est arrêté. Il y a la gendarmerie, tout le monde qui est venu. Il voulait même me faire descendre pour une déclaration, etc. Je dis, moi, je ne peux pas descendre puisque, bon, j'ai le genou dans le plâtre et puis je vais à Marseille que je ne connais pas et tout. Et oui, et j'avoue que ça m'avait marqué.
Ah ben oui, un homme qui meurt sur vos genoux, oui. C'est pas commun, ça, Colette. Hein.
Je l'avoue.
Vous pensez que c'est le livre qu'il a...
Je ne sais pas. Enfin bon, le livre, bon, vous avez très bien compris, ainsi que les téléspectateurs qui écoutent la radio.
Oui, un livre un peu porno, quoi.
Un peu, voilà.
Voilà, un peu hot.
Oui, je pense, au début, je l'ai dit tout à l'heure à la personne qui m'a, au standard, qui m'a répondu, mais là, bon, je n'osais pas trop.
Bon, ça va, Colette. Hein. Non, mais ce qui est fou, c'est que le monsieur, bon, alors après, paix à son âme, hein, mais il n'a pas peur de sortir son livre comme ça, tranquille, tranquille le chat, je lis un livre porno dans le train, devant tout le monde.
Hein. De toute manière, bon, bah, il fallait bien qu'il occupe son temps et tout.
Oui, bah, il y a d'autres livres aussi. Hein.
C'était une personne qui n'était pas jeune.
Oui. Ouais. Enfin, c'est triste d'un côté, en même temps, c'est une belle mort.
Oui, parce que bon, l'histoire de Marie, là, juste avant, moi, j'avoue que j'ai bien ri en l'écoutant. Hein.
Qui a rencontré le président?
Oui.
Ah oui, c'était dingue, hein. Elle rêve de Sarkozy, elle retrouve dans la même position dans le train. Ah oui. Dans l'avion.
Moi, j'avoue que là, j'ai bien ri avant.
Ah ben, bon, moi, je ris depuis le début de l'émission, quand même, Colette. Hein.
C'est vrai que bon, des fois, j'écoute votre émission et tout. Et puis là, quand j'ai entendu ça, ben, j'ai dit, tant pis, il faut que j'appelle, là.
Ben, c'est pas tant pis, c'est tant mieux.
Oui.
C'est tant mieux. Alors, et c'est vrai que c'est ça aussi, on se dit tout. Il y a des soirs, c'est un peu plus sérieux. Il y a des soirs où on est même un peu touché, on a les larmes aux yeux, mais on parle de tout ce qui fait le quotidien, notre vie, tout simplement. Et là, on se dit que ça allait être un petit peu plus léger en parlant des transports en commun. Merci beaucoup, Colette, déjà pour votre fidélité et puis d'être venue témoigner ce soir.
Non, mais je vous dis, en plus, il y avait très longtemps que je n'avais pas appelé France Bleu. Et moi, j'écoute le soir et tout dans mon lit. Des fois, je lis, j'écoute la radio en même temps et tout. J'aime bien votre émission.
Ben, merci, ça nous touche. Oui, je vous embrasse très fort, Colette.
Au revoir, Vanessa.
Au revoir. Direction la Normandie maintenant avec Cédric. Bonsoir, Cédric.
Oui, bonsoir.
Ça va bien, Cédric?
Bah, ça va et vous?
Bah ouais, ça va bien. On part dans le RER avec vous. On ne l'avait pas fait encore, tiens.
Non. Alors c'est
le RER de Normandie, bien connu. Hein.
Oui, bien sûr. Oui. On est très bien desservis.
Oui, bien sûr. Alors, racontez-moi.
Alors, ça se passe à Paris.
Oui.
C'était il y a une quinzaine d'années. J'étais étudiant et c'était un dimanche soir. Je devais me rendre à mon école dans le Loiret, le dimanche soir pour rejoindre l'internat. Et donc, il fallait que je prenne mon train à la gare de Lyon. Et pour cela, il fallait que je prenne le RER A. Et tout d'un coup, entre la station Charles de Gaulle Étoile et Aubert, le RER s'arrête, bondé. Et on reste comme ça plusieurs minutes avec les lumières qui s'éteignent, puis se rallument, se réteignent. Et se passent de longues minutes. Les gens commencent un peu à se regarder, à ne pas savoir quoi faire. Puis on voit des gens qui commencent à sortir par les issues. Des gens qui commencent à courir sur la voie. Donc là, bah, évidemment, on ne sait pas trop quoi faire.
Et là, en fait, on est loin d'une station, on est vraiment dans le noir. Ah oui.
Entre deux stations, hein, complètement. Puis vous savez, c'est pas des stations de métro,
c'est long.
Il
hein, oui.
Y a une certaine distance entre. Enfin, vous savez bien, vous êtes là-bas. Et donc, à un moment donné, bah, les agents de la RATP ou SNCF, je sais pas, mais viennent nous voir et nous disent, bah, faut évacuer. Donc bah tout le monde descend, mais c'est pas évident de descendre déjà d'une part.
Mais vous aviez le droit de descendre, enfin le conducteur il vous a autorisé à le faire.
C'est pas le conducteur, c'est des employés hein, qui passaient de wagon en wagon quoi pour dire tout le monde descend. Parce qu'en fait c'est pas un train qui s'arrête, c'est tous les trains qui s'arrêtent. Parce que bon au final on apprendra plus tard que c'était une panne géante au niveau de la gare de Lyon. Et donc tous les RER et tous les métros qui desservaient la gare de Lyon étaient en panne au même moment. Donc Paris un peu paralysé du coup. Mais ce qui fait qu'on vous fait descendre donc sur les voies. Et là, il y a un peu ambiance Paris sous les bombes, hein, j'ai envie de dire, avec des centaines de gens qui déambulent, avec très peu de lumière. Et puis vous marchez, vous marchez, vous marchez. Et d'un coup, une petite lumière au loin qui se rapproche, et puis bah, c'est la station Aubert, et puis là, vous avez les pompiers qui vous aident à sortir, parce que vous êtes bas, hein, malgré tout.
Mais attendez, moi, je connais pas grand-chose en RER, en métro et tout ça, mais c'est pas électrifié en dessous, enfin, il y avait pas...
Apparemment, ils avaient mis en sécurité, quoi.
Ah oui, d'accord.
Et puis quand vous marchez, du coup, vous croisez plusieurs rames de RER, parce que, bah, c'est, je vous dis, c'est plusieurs trains qui s'arrêtent d'un coup, dans les deux sens. Et donc à la station Aubert, là, on avait les pompiers qui nous attendaient et qui nous aidaient à sortir de la rame, quoi. Mais moi, j'ai même le souvenir de gens âgés qui se cassent la figure, d'enfants qui pleurent. Ouais. C'est assez surréaliste.
Il y a un côté germinal un peu quand même. Hein.
Oui, où je vous dis oui.
Non, je sais pas, moi je vois ça là, mais ouais. Oh, incroyable, ouais. Ça fait peur. Et surtout, on se dit pourvu qu'il n'y ait pas un autre train qui arrive dans l'autre sens, pourvu que, enfin, je sais pas, il doit se passer mille choses dans la tête à ce moment-là.
Ah bah oui, mais c'était une foule assez compacte. Hein, ouais. Et puis moi, je vous dirais égoïstement à l'époque avec ma guitare sur le dos et mon sac à dos. Je me dis, bon, bah, mon train, le dernier train, il est dans 2 heures, quoi. Donc,
ah oui, donc vous pensez qu'il faut rejoindre la gare et il faut vite rentrer.
Ouais. C'est surréaliste d'un côté, puis d'un autre côté, j'ai une contrainte. Donc, je me mets à courir. Les pompiers m'aident à sortir, me hissent. Oui, parce qu'il y a une marche.
Oui, elle est assez haute. Hein. Ouais.
Assez haute, quoi, entre le bas de la voie et le quai. Et puis, bah, une fois que vous êtes sur le quai, là, vous savez pas sur le coup que c'est la gare de Lyon qui est bloquée. Donc, vous demandez qu'est-ce que je fais maintenant. Il n'y a aucun métro, aucun train qui va
gare de Lyon.
Donc, obligé de reprendre des métros qui ne vont pas directement gare de Lyon.
Vous l'avez pas eu, votre train, c'est ça?
Donc, j'ai pas eu mon train. J'ai eu le dernier à aller 2 minutes près. J'ai dû descendre à Nation et puis courir jusqu'à la gare de Lyon.
Oh, mais vous étiez jeune, vous aviez des jambes.
Oui, ça fait des souvenirs.
Ah oui, ça fait des souvenirs, ça c'est sûr. Et maintenant, en Normandie, c'est plus calme, les transports en commun, Cédric?
C'est beaucoup plus calme. Alors les Rouennais vont râler souvent parce que c'est en retard, mais moi dans ma campagne, ça va bien. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun, donc on n'est pas embêté. Enfin, j'ai plus jamais vécu cette situation-là.
Ouais. Ça fait du bien aussi à un moment de quitter Paris quand même. Hein.
Oui.
Hein, voilà, on respire un peu.
C'est la nécessité.
Ouais. Merci Cédric d'être venu nous raconter cette fin du monde dans les souterrains parisiens avec la panne donc dans le RER. À bientôt Cédric.
Je me permets juste de faire un bisou à mes filles.
Ah bah bien sûr.
Louise, Manon et puis à ma femme Marie.
Ah, il y a que des filles chez vous.
Eh oui.
Heureux homme que vous êtes. À bientôt Cédric, bonne soirée, au revoir. Jusqu'à 22h, on se dit tout, vous donne la parole pour nous raconter vos histoires les plus incroyables dans les transports en commun. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans l'avion, dans le train, le RER à l'instant, dans le métro? On n'a pas eu le tramway, on n'a pas eu de bus, on n'a pas eu de voisin insupportable. On a eu un voisin qui est mort sur les genoux de Colette, hein, après avoir lu un livre un petit peu olé olé dans le train. Mais voilà, vous savez le gars relou qui vous parle tout le temps, qui sent mauvais de la bouche, ou la voix voisine qui vous fait du rentre-dedans alors que bah non, vous avez juste envie d'être tranquille pendant votre voyage. Est-ce que vous avez connu ça, vous? C'est des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. 0810 055 056, à tout de suite.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les transports en commun et toutes les choses incroyables qui peuvent s'y passer, les choses jolies, les choses insolites, les choses mignonnettes et puis les choses un peu relou, on peut le dire comme ça, et c'est ce qu'on va voir avec David en région parisienne. Bonsoir David. Allô David. David, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Ah oui, vous êtes là. Il y avait du bruit, il y avait un truc bizarre, mais vous êtes là. On va parler des voisins un peu collants, on va le dire comme ça.
C'est ça, exactement.
Racontez-nous, ça se passe où? Dans le métro, dans le bus?
En fait, moi c'était dans le bus.
Ouais.
Donc je me rendais à Porte de Charenton pour prendre le métro. Et en fait, je suis dans le bus, je suis assis, et on arrive à un arrêt de bus, et il y a un mec qui rentre, mais il était un petit peu ivoire, un peu beaucoup, et se met à mes côtés. Et là, comme ça, subitement...
Et là, on se dit, pourquoi moi, déjà?
Voilà, déjà, ouais, alors là, je me suis dit, oh non, donc j'avais mes écouteurs et tout, donc je fais le mec, je suis pas très intéressé, je regarde pas, je fais pas attention. Et là, il me demande, excusez-moi, monsieur, ça, je vois que je suis paumé. Je retire mes écouteurs, je lui dis comment, il me dit est-ce que ça se voit que je suis paumé? Je lui dis comment ça vous êtes paumé? Il me dit ouais ben en fait là je viens de rentrer chez moi.
Et il vous raconte sa vie en fait.
Voilà, là il commence à me raconter qu'en fait sa femme était avec son meilleur ami et qu'il n'a pas compris qu'est-ce qu'il faisait là, mais en fait il n'ose pas imaginer, il ne veut pas s'imaginer ça et tout, et que là il ne sait pas quoi faire et tout. Donc en fait là il commence à me raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé.
Mais comment on fait dans ces cas-là David? On fait genre, on remet les écouteurs, on ne l'écoute pas, on lui répond pour faire plaisir?
Ben voilà, en fait là franchement je vais vous mentir, j'ai fait le mec qui écoute, je l'ai écouté, et je faisais son bob sous ma tête en fait, oui, en pensant que en fait, ça allait passer vite quoi. Et je vois qu'en fait plus on porte de l'attention à ces gens-là, et plus ils continuent à nous raconter leur histoire, en fait.
Bah oui, ils se raccrochent un peu à la personne qui veut bien les écouter.
Voilà. Et là, je vois, il y a le voisinage qui commence à me regarder et tout. Il voit que je suis pas très intéressé, que le mec, il pue l'alcool, mais à 2000 km. et là, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais?
Donc, il faut sortir, dis, non? Dans ces cas-là, voilà, on descend.
Exactement, je me dis, il faut sortir. Et comme par hasard, c'est mon arrêt de bus. Donc, je lui dis, ben, monsieur, ben, c'est des choses qui arrivent. Bonne soirée à vous et tout. Et là, il me fait, ah, tu descends là, ben, je vais descendre là aussi.
Ah non, mon Dieu.
alors, ben, du coup, moi, je n'ai pas fait attention. Moi, je l'ai laissé dans son truc. Et je suis allé prendre l'arrêt du tram. Mais je vois qu'il m'a suivi pour aller au tram aussi. Donc, je n'ai pas fait attention. Arrivé près du tram, j'attends le tram. Je vois qu'il arrive près de moi. Et là, il me demande si j'ai une cigarette.
Et là, on se dit, ok, une cigarette et on s'en va.
Mais moi je fume pas, donc je dis non, ah j'ai pas de cigarette. Voilà. Et là, il a commencé à me raconter, ah ouais, c'est bien, tu ne fumes pas, j'aurais tellement aimé arrêter, je pense que c'est pour ça que ma femme aussi, elle veut me quitter.
Ah mon Dieu, mon pauvre David, oh là là, le cauchemar. Et comment vous avez fait alors? Moi j'ai envie de savoir la fin, comment on se débarrasse d'une personne collante comme ça?
Ben, une personne collante, pour se débarrasser d'elle, en vrai, il faut lui tourner le dos et puis partir vraiment. Donc je l'ai tourné, le tram est arrivé, j'ai mis mes écouteurs, je suis parti, je suis rentré dans le tram et il est rentré avec moi.
Ah,
donc, je me suis dit, là, c'est ma soirée en fait.
Et après il est venu dormir chez vous et puis non.
Non, après moi je me suis déplacé et puis une bonne fois pour tout, je lui ai dit il y a un souci. Il m'a dit non, tranquille, j'ai dit, ben, je sais pas, putain, là, tu me suis, est-ce que tu as un truc à me dire? Et puis il m'a fait, non, mais j'ai vu que tu étais là, tu m'as l'air cool et tout, donc c'est pour ça que je suis venu te parler et tout. Je lui ai dit, ouais, mais ça m'intéresse pas, c'est là, je peux te parler.
Alors c'est vrai, c'est vrai David que on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours envie, mais parfois il y a des gens qui sont dans une grande détresse, une grande solitude et qui ont besoin de parler. C'est pour ça qu'il faut pas être méchant avec eux, mais à un moment donné on ne peut pas non plus rester des heures et des heures à discuter. Hein.
Voilà, à un moment j'ai dû mettre stop, mais c'est vrai que au début c'est difficile surtout quand on voit l'état de la personne et tout. On sait pas qu'est-ce qu'elle peut faire quand même. On prend quand même le temps de l'écouter en pensant que ça va aller vite, ça va pas durer longtemps. Et que c'est vrai que quand ça commence à rentrer dans une conversation qui dure assez longtemps, ben là, il y a ce petit brin d'énervement qui fait que, ouais, on a tendance à montrer un mauvais côté.
Bah ouais, mais c'était votre bon côté au début. Vous êtes plutôt sympa et vous avez dit, allez, je vais lui parler. Eh oui.
Exactement.
Merci beaucoup, David, pour votre témoignage. Et attention, monsieur Collant est alcoolisé, hein, dans les transports
ça,
en commun.
C'est vrai. C'est
à bientôt, David.
Merci beaucoup, au revoir.
Jusqu'à 22h, on se dit tout sur les rencontres, les histoires insolites, les histoires rigolotes dans les transports en commun. Et dans un instant, nous serons avec Philippe, Carlos et Olivier de Kersauzon.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Les transports en commun, c'est le sujet dont on se dit tout. Ce soir, pas pour nous dire lequel vous préférez, parce que dans le fond, on s'en moque un peu. Hein. Mais en revanche, on adore vos petites histoires quand il se passe des aventures, des histoires incroyables, des histoires insolites aussi. Et c'est ce qu'on a depuis le début de l'émission, depuis 20h. Et ça va continuer avec Philippe qui nous appelle des Landes. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Vanessa.
Ça se passe en avion. Oui, au départ, c'est dans un avion.
Voilà. C'était en 1994. J'étais en stage dans la région parisienne et puis je rentrais donc sur Pau. Et donc nous avons décollé d'Orly et puis au bout de 10 minutes, on s'est aperçu que l'avion ne montait pas en altitude et puis on nous a dit qu'il y avait un problème sur un réacteur. Donc on faisait demi-tour sur Orly et puis donc on a re-atterri à Orly. Et en fait, dans l'avion, il y avait de Kersauzon, il y avait Carlos, je ne me souviens plus qui il y avait, d'autres. C'était l'équipe, toute l'équipe là. Et en fait, on nous a mis en attente dans l'aéroport d'Orly. Et c'est là qu'ils nous ont fait patienter, Carlos.
Ah, vous étiez tous ensemble, ils n'ont pas mis les stars d'un côté et les autres de l'autre. C'est plutôt sympa, ça.
Il y avait un petit bar, et donc on avait tout ce qu'on voulait, toutes les collations qu'on voulait. Et puis, ils ont commencé à mettre l'ambiance un peu, et voilà, ça s'est passé.
Les deux en même temps, ça doit être sympa, hein.
Ah ouais, c'était très bien parce qu'on a pu discuter un peu avec eux et tout, c'était très sympa. En plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'étais rentré vraiment à la bourre dans l'avion au départ. Et je crois que j'étais le dernier à monter dans l'avion et je suis passé devant eux en fait. Ils étaient sur la rangée du milieu de l'avion et je suis passé devant eux et ils me disent bonsoir. Et puis moi je tourne la tête, je vois Carlos, tout ça, j'avais 20 ans, j'étais vraiment surpris et voilà. Les voir là, j'étais scotché sur place. Et puis il est arrivé cette aventure après, et c'est vrai que là, ça a été encore...
Et après, on voit les gens différemment quand on a passé comme ça une heure avec des gens connus et qu'on se dit, bah, en fait, ils sont comme nous, hein, ils boivent un verre, ils rigolent, racontent des blagues, comme nous, en fait. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Philippe, pour cette anecdote avec Carlos et de Kersauzon. Et on va terminer cette émission. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais vraiment, on y tenait par une histoire d'amour. Bonsoir, Farid.
Bonsoir.
Vous êtes à Nantes et vous avez rencontré votre femme dans un train.
Voilà, en revenant de Châteauroux, de l'université.
Farid, on vous capte plus, là. Farid ? Oh non, on voulait une histoire d'amour pour finir, vous avez bougé. Je sais pas où vous êtes, Farid, c'est bien dommage, une rencontre dans le train. Farid, vous êtes de retour, je crois. Farid ?
Oui,
oui,
je vous écoute.
Ah bah allez-y, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et on voudrait vraiment savoir comment ça s'est passé.
Donc, comme je vous disais, je suis revenu de Châteauroux. Direction oui. Nantes, j'ai accompagné mon collègue pour s'inscrire à l'université. J'étais dans le train et lui dormait à côté. La route, elle était longue et puis je me faisais un peu chier. Il y a une jolie demoiselle qui est montée. Elle était assise, enfin jolie, je l'avais pas vue, mais la taille, je veux dire, elle était plutôt à mon goût. Elle était assise devant moi, de dos. Je la voyais pas. À un moment, j'ai pris un petit bout de papier, je lui ai écrit un mot, coucou, je lui ai passé avec le stylo. Elle m'a réécrit, on a continué à parler pendant tout le trajet de la musique, de tout et n'importe quoi.
Et elle s'est jamais retournée.
Téléphone. Comment ?
Elle s'est même pas retournée.
Elle s'est jamais retournée, je sais juste qu'elle était blonde, c'est tout. Et elle s'est jamais retournée, on a continué à parler, comme je vous disais, des vacances, des projets. On a à peine 2 heures, on s'est quasiment... comment dire, comme si
vous connaissiez depuis toujours, voilà,
exactement, ouais. Tout à fait. Et puis je lui ai laissé mon numéro de téléphone. J'ai attendu 2-3 semaines, je crois. M'a quand même envoyé un petit SMS qui a bouleversé, on va dire, mon. C'est inattendu. Je pensais pas. Par contre, parce que j'ai attendu quand même 3 semaines, je pensais pas que j'allais recevoir un message d'elle, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à parler par SMS, téléphone. Après, ça a commencé à s'envoyer des petites photos. C'est là que j'ai
Farid, il faut qu'on conclue. Racontez-nous la fin, la meilleure fin. On nous reste 10 secondes.
La meilleure fin, c'est qu'on s'est donné rendez-vous à Nantes ici même. Et puis elle est tombée dans mes bras en pleurant. Et
vous vous mariez dans une semaine, surtout parce que je le vois sur votre fiche. Bravo, Farid, c'est beau ça.